A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Un nouvel après-midi sur CNews, une nouvelle édition de 90 minutes info. Je suis ravie de vous retrouver pour ce débat à venir, juste après le flash info d'Arthur Muriau. Bonjour Arthur.
Alors que les experts de l'AIEA sont arrivés à la centrale nucléaire de Zaporijjia, l'un de ses réacteurs a été arrêté en raison d'un bombardement russe selon l'opérateur ukrainien. Le système d'urgence aurait été enclenché et une ligne électrique aurait été endommagée. Plus tôt dans la matinée, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a indiqué que la sécurité de la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique sera assurée. En ce jour de rentrée, la lutte contre le harcèlement scolaire est mise en avant par le gouvernement. Emmanuel Macron a publié une vidéo hier sur le réseau social TikTok. Le président de la République veut sensibiliser en s'adressant directement aux jeunes. 10% des élèves seraient victimes de harcèlement scolaire en France. Bonne nouvelle, si vous avez une voiture, le prix du litre d'essence est en baisse. À partir d'aujourd'hui, la ristourne de l'État passe de 18 à 30 centimes, valable sur tous les carburants. Elle s'applique dans toutes les stations-service de France. Une réduction temporaire à partir du 1er novembre, elle redescendra à 10 centimes. Pour les entreprises, d'autres pistes se précisent. Éric de Rydmatten nous en dit plus.
Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Et oui, un entretien tout à l'heure avec Bruno Le Maire, on apprend que la priorité, bien sûr, ce sera de protéger les Français et aussi les entreprises, c'est ça, cet hiver et tout au long de 2023, parce que le gros problème, vous le savez, c'est la production d'énergie. Et comme quelle énergie faut-il acheter, importer pour compenser l'arrêt d'une partie des centrales? Eh bien, on a appris que Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, étudiaient tous les scénarios possibles. Est-ce que l'hiver sera doux, froid, très froid, glacial? Quelle sera la vitesse du vent? Oui, il l'a dit, avec le nombre d'éoliennes disponibles, et en fonction des différents scénarios, eh bien, on ajustera l'achat d'énergie possible. Alors, ensuite, on passera aux aides, et là, on apprend que pour les entreprises, un guichet va être ouvert jusqu'à fin décembre pour les entreprises qui ont besoin d'aide et d'indemnités, parce qu'il y a quand même quelques problèmes aujourd'hui avec les entreprises. Je vais vous citer l'exemple de Duralex. C'est un grand groupe qui avait été créé par Saint-Gobain, qui fabrique les fameux verres, vous savez, pour les cantines scolaires, et entre autres. Eh bien, cette entreprise a tout simplement décidé d'arrêter ses fours ou de les mettre en veille à partir du mois de novembre, parce qu'elle ne peut plus supporter les factures d'énergie déjà maintenant, et l'ensemble du personnel sera mis en chômage partiel. C'est cela que veut éviter justement Bruno Le Maire, d'où cette agitation un peu maintenant pour aider au plus vite les entreprises. Et donc on peut voir que le problème serait de ne pas venir sauver d'autres entreprises, ça coûtera encore plus cher. N'oublions pas que Arc International, qui est un grand groupe verrier dans le Pas-de-Calais en France, à Saint-Omer, eh bien, a été sauvé. Aujourd'hui, s'il devait s'arrêter, ce serait catastrophique. Tout cela explique les aides qui seront annoncés dans les semaines qui viennent.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Et bienvenue à nouveau, si vous nous rejoignez à l'instant, dans 90 minutes info. Le débat va pouvoir commencer. On accueille aujourd'hui Ludovine de la Rochère. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau, ainsi que Jean Garrigue à vos côtés. Oui. Bonjour Jean. Et bonjour un autre Jean, Jean Messia, qui est là également. Bonjour. Pour commenter l'actualité. Alors évidemment, on a beaucoup de thèmes à aborder. Et avant de revenir à cette saga de la semaine, cette saga de l'imam Iki Houssen, j'aimerais vous raconter une autre histoire. C'est une info CNews qu'on a appris aujourd'hui. Deux femmes ont eu affaire à leur cambrioleur il y a quelques jours. C'est un homme qui se livrait en outre à des actes obscènes devant elles. Un mineur isolé de 16 ans, entre-temps, a été interpellé. Il sera jugé dans 2 mois. Là aussi, on commentera peut-être cette temporalité. Je vous propose, dans un premier temps, de revenir sur les faits avec Amaury Bucco du service police-justice.
Dans la nuit du mercredi 24 août au jeudi 25 août, 3 femmes ont été victimes de vols par effraction. Le suspect est un jeune Algérien de 16 ans en situation irrégulière, un mineur isolé comme on dit. Il s'est masturbé devant deux de ses femmes selon leur récit. En fait, tout s'est passé assez rapidement dans la même nuit entre Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, qui sont deux villes de banlieue parisienne. La première victime a 55 ans, elle surprend l'intrus dans son salon et face à elle, celui-ci s'enfuit et emporte avec lui un téléphone portable. La seconde victime est âgée de 48 ans, elle surprend l'individu cette fois-ci en train de se masturber devant une photo d'elle en maillot de bain dans son salon. Face à elle encore, il s'enfuit et là emporte cette fois-ci un téléphone portable et un ordinateur portable. Quant à la troisième victime, c'est une femme de 62 ans, il est à environ 5h du matin, elle prend sa douche et elle aperçoit dans le miroir de sa salle de bain le jeune homme qui est dans le couloir et qui la fixe tout en se masturbant. Là encore, il s'enfuit, il emporte avec lui un sac à main. Il a donc finalement été interpellé, il a été déféré, mais le parquet n'a pas retenu la qualification d'agression sexuelle, la jugeant insuffisamment caractérisée. En revanche, il sera poursuivi pour les trois vols et aussi pour recel de vol. Le procès devrait avoir lieu le 17 novembre prochain. Quant à lui, ce jeune mineur isolé, il a été placé sous contrôle judiciaire et il lui est interdit de revoir les trois victimes, mais aussi de se rendre dans le Val-de-Marne.
Voilà, je vous disais, c'est une info assez sordide. Je vous voyais vivement réagir, Ludovine de la Rochère, à l'énoncé des faits, des détails de cette sombre affaire. Ce qui nous marque tous, évidemment, c'est que l'agression sexuelle, comme elle n'est pas caractérisée, ne sera pas retenue contre cet individu. Même pas pour exhibitionnisme, enfin, on n'a même pas retenu ce caractère qui est quand même traumatisant. On imagine le traumatisme que ça peut revêtir pour ces jeunes femmes de repenser à cette nuit d'horreur qu'elles ont vécue.
Et puis une femme qui est dans sa douche, donc dans une situation de vulnérabilité, qui s'aperçoit tout d'un coup qu'elle a quelqu'un à l'orée de sa salle de bain, dans cette attitude plus qu'exhibitionniste, parce qu'en plus c'est une attitude active, et qui par ailleurs vole honnêtement entre les deux, je ne sais pas lequel est le plus odieux, le plus insupportable, le plus traumatisant.
Pour elle-même, oui.
Pour elle-même, oui. Et que la justice considère que ça n'est pas caractérisé du point de vue sexuel, enfin c'est atterrant, donc le fait est absolument scandaleux et effectivement terrible pour ces femmes qui ont dû avoir très peur, qui ont dû être écœurées, etc. Mais visiblement ça n'est pas concret pour la justice et c'est le deuxième volet de ce que CNews vient de nous apprendre. C'est atterrant. Alors est-ce que ça pourra changer? Est-ce qu'on pourra ou est-ce que c'est déjà gravé dans le marbre et il n'y aura plus de possibilité de caractériser le l'agression à caractère sexuel.
Ça va évoluer, je pense.
J'espère. Et puis, il y a aussi l'autre volet de l'affaire. Il est donc un mineur en situation irrégulière. Un mineur, cela reste sans doute à vérifier. On sait qu'il y a beaucoup de mineurs qui, en fait, sont majeurs. On sait que la datation,
absolument,
par les eaux, est en fait très, très floue et très, très vague. Et enfin, on admet de manière générale en France qu'il y ait des étrangers dits en situation régulière, mais qu'en fait, on admet et que l'on soigne, que l'on traite, que l'on loge, que l'on fait vivre. Enfin, il y a aussi de ce côté-là, oui, un autre problème. Et sans cesse, nous avons des faits qui viennent de ces situations, de ces étrangers en situation irrégulière, pas seulement d'eux, mais notamment. Donc il y a clairement là un ensemble de problèmes à traiter, de dysfonctionnement même.
Je savais bien que ça vous ferait vivement réagir. Jean Messia, il y a deux autres aspects quand même qu'il faut souligner. Le jeune homme est placé sous contrôle judiciaire, donc ça veut dire libre en fait, en semi-liberté, et il sera jugé au mois de novembre, c'est-à-dire bon, un délai de 2 mois. Là, en l'espèce, il fallait une comparution immédiate pour vous?
Je pense qu'il faut une comparution immédiate, mais le problème, c'est que comme ce genre de comportement n'est malheureusement pas isolé, si on fait des comparutions immédiates, ça veut dire que les tribunaux vont être rapidement engorgés par les comparutions immédiates. Je rappelle, en même temps que cette histoire, ma sombre histoire est arrivée, à Cannes, vous avez également une dame qui a 89 ans, qui s'est faite violemment agresser hier dans la rue pour quelqu'un qui voulait lui voler son sac à main. En Italie, vous avez une femme qui est de 55 ans, qui a été violée en pleine rue par un réfugié guinéen, filmé de surcroît par un voisin qui habitait de l'autre côté de la rue.
Non, mais pourquoi nous encore, il y a quelques jours à Maison Alfort, souvenez-vous de cette
violence. Exactement. Donc, en fait, si on veut comprendre et établir une sorte d'analyse de ce qui se passe, nous sommes véritablement face à un comportement de prédation de la part de personnes qui ne sont pas dans notre pays pour s'y réfugier, comme la doxa gauchisante tend à nous le faire croire depuis des années, mais qui sont dans notre pays dans une perspective de conquête, sinon de colonisation, parce que vous savez très bien que dans la conquête, on s'attaque d'abord aux personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Dans toutes les conquêtes de l'histoire, quelles étaient les premières victimes? C'était les personnes âgées et les femmes. C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc il y a, dans le processus de racaillisation de la France par certaines immigrations qui continuent d'arriver, il y a dans ces immigrations-là, effectivement, des personnes, je ne dis pas la majorité, mais en tout cas un pourcentage de personnes qui est là dans une attitude de revanche, de suprémacisme identitaire, de vengeance aussi par rapport à ce qu'il considère être l'histoire, par rapport à la colonisation, par rapport à toute cette imagerie idéologique que les gauchos progressistes ont déployée dans nos écoles depuis 40 ans, qui tente à faire de la France un pays qui a commis des crimes contre l'humanité, qui a colonisé, qui a mis en esclavage, etc. Et donc il y a effectivement des phénomènes, je dirais, une attitude de prédation concurrente, un assaut systémique contre notre pays et auquel l'idéologie ambiante et, je dirais, même nos institutions ne veulent pas, sont impuissantes, en fait. C'est-à-dire que ces institutions et cette idéologie ont neutralisé les anticorps identitaires de notre pays permettant d'y répondre efficacement, à commencer par la police et par la justice.
Et en étant même dans le déni de la manière dont la femme est traitée. Là, c'est très typique.
Jean Garrigue, cet individu, donc, on le rappelle, qui ne reculait devant rien, qui agit par trois fois dans la même nuit, qui se livre à ses actes, bon, moi, que j'appelle obscènes, enfin, bon, voilà, clairement d'agression sexuelle, même si ça n'est pas retenu, et qui est en liberté. Il y a quand même un élément incompréhensible là-dedans.
Bon, d'abord, moi, je pense aux victimes. Et on ne parle jamais des victimes dans ces cas-là. Je pense à ces femmes qui ont été traumatisées, peut-être traumatisées à vie parce qu'elles ont vu. C'est ça la première chose qu'il faut dire. Deuxième chose, je ne partage pas la surinterprétation de Jean Messia à propos d'une, d'un fait qui atteste d'une reconquête identitaire. En revanche ce qui pourrait n'être qu'un fait divers, parce que ça a toujours existé, ce type d'agression, je termine. Ce qui pourrait n'être qu'un fait divers est en fait le révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements, ça a été dit, et je souscris complètement là-dessus. Premier dysfonctionnement, effectivement, la présence de ce jeune en situation irrégulière, dont on ne sait pas très bien l'âge, etc. Deuxième dysfonctionnement, évidemment, la manière dont la justice semble gérer cette affaire en passant à côté d'une qualification au moins d'exhibitionnisme, ça paraît quand même très, très surprenant. Troisième dysfonctionnement, la lenteur de la comparution, et vous l'avez dit, il est libre, alors que la comparution immédiate s'impose pour ce
genre. En fait, tout choque dans cette affaire. C'est ça qui est terrible.
Enfin, donc, c'est vrai que ça nous met face à un certain nombre de dysfonctionnements qui sont dus aux lourdeurs de la justice, au fait qu'il n'y a pas assez de personnel, pas assez d'argent, peut-être aussi un manque de volonté politique de la part des magistrats. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se cristallisent. C'est ça qui est intéressant.
Ça serait une nouveauté, ça.
Ce qui est très choquant pour compléter votre propos, c'est le silence assourdissant des féministes. Mais oui. Que fait Sandrine Rousseau? Elle est probablement occupée à critiquer le steak sur le barbecue. Mais là, en l'occurrence, on a encore une fois un phénomène criminel où des femmes sont attaquées par des jeunes hommes exhibitionnistes qui les ont agressées sexuellement ou en tout cas qui menaçaient
la défense de ces femmes.
Exactement. Ouais. Pourquoi? Mais c'est, en fait, là, elles révèlent leur véritable racisme. C'est comme si elles donnaient une carte blanche à de tels comportements sous prétexte qu'ils viennent de personnes racisées ou de personnes étrangères. Ce qu'elles acceptent de personnes racisées, elles n'en accepteraient pas 1% s'il s'agissait de blancs hétérosexuels. Donc on est chez les fous.
Ludovine de la Rochère, là on a quand même l'impression, dans ce que je viens de vous décrire, de ce qu'on vient de vous raconter, qu'on est dans un cas d'école. C'est-à-dire que tous les aspects de ce qui choque, c'est vraiment un cas d'école des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, en fait.
Et en vérité, alors on dit beaucoup que les juges prennent un certain nombre de décisions étonnantes. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires dans lesquelles on est stupéfait de la manière dont les juges instruisent et puis parfois jugent, et souvent. Il y a eu un nombre d'affaires incroyables et très diverses ces dernières années. Mais les juges appliquent la loi. Et peut-être que la loi devrait non pas... on ne devrait pas non pas avoir de nouvelles lois sur la question de la délinquance, sur la question des prisons, sur la question de la justice, sur la question de l'immigration. Mais il y a peut-être d'abord un audit de la situation et des dysfonctionnements en cascade que nous avons. On va parler de l'affaire de l'imam Iqiyoussen. Les dysfonctionnements sont évidents, mais finalement, un audit de toutes ces erreurs, de toutes ces constructions juridiques contradictoires, aberrantes, qui sont exploitées à fond par les associations immigrationnistes et les avocats qui sont au service de ceux qui veulent s'installer en France et sans jamais respecter les Français, ou en tout cas pour un certain nombre sans respecter les Français, et le mot est faible. Il y a une véritable refonte, en vérité, de plusieurs de nos codes à refaire en profondeur. C'est évident.
On vient, alors on suivra avec attention ce qui se passera, je crois que c'est le 17 novembre que l'affaire devrait être jugée. On verra effectivement si d'ici là, on retient le caractère de l'agression sexuelle.
L'attentat à la pudeur, enfin c'est oui,
Peut-être avec la médiatisation de l'affaire, encore une fois, peut-être qu'on y viendra. Oui. J'aimerais qu'on revienne donc à la traque, car il faut bien l'appeler ainsi, enfin ce qui n'est plus la traque maintenant, mais la disparition subite de l'imam Iqi Hussein. Garder la face, expliquer, justifier, c'est exactement ce à quoi s'est employé Gérald Darmanin ce matin chez Pascal Pro. Il faut faire en sorte que tout cela ne passe pas pour un camouflet. En fuyant la France, il n'a pas commis d'infraction, mais ça fait quand même un petit peu désordre pour beaucoup. Je propose d'écouter le ministre de l'Intérieur qui tentait de se justifier tout à l'heure.
Je suis ministre de l'Intérieur d'une démocratie. Alors ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur d'une dictature. Quand le Conseil d'État nous a donné raison, le préfet du Nord a demandé au juge des libertés de la détention, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut une autre décision de justice, on l'a passée sous silence, pour permettre de ce qu'on appelle des visites domiciliaires, c'est-à-dire chercher la personne chez lui. Comme bien même M. Cuisen, au moment où le Conseil d'État donnait sa réponse, juste quelques minutes ou quelques heures avant, M. Cuisen fut arrêté, fut contrôlé par les services de police, aucun moyen juridique n'était disponible pour l'interpeller puisque nous n'avions pas la décision.
Bon, alors ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a eu surveillance jusqu'à un certain point, sauf que il n'y avait pas d'intervention possible. Mais à chaque fois, c'est un petit peu comme un aveu d'échec, d'une certaine manière.
Il y a eu surveillance, oui et non, parce que si effectivement cette personne qui, rappelons-le, a fait l'objet d'un premier fichage dès 1990, à l'époque c'était la DST, la direction de surveillance du territoire, qui déjà l'avait dans le collimateur. Donc moi, si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est que si quelqu'un qui est surveillé depuis maintenant 30 ans, qui est fiché S, qui a prononcé un certain nombre de discours extrêmement virulents, à la fois antisémites, homophobes, sexistes, anti-républicains, anti-français, si cette personne-là, on ne sait pas où elle est, l'État ne sait pas où elle est, alors qu'elle fait l'objet d'une surveillance, mais alors tous les autres qui sont derrière, qui tiennent le même discours, mais qui sont, entre guillemets, moins célèbres, on le traite comment? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas le ministre, c'est pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'est le surpantalon. Cette affaire est une gigantesque pantalonnade. C'est-à-dire qu'on a transformé un type qui était un ennemi de la République en héros dans certains quartiers. C'est-à-dire jusqu'au bout, ce type aura fait un pied de nez à la République, aura fait un pied de nez à son gouvernement, aura fait un pied de nez à ses institutions, au nez et à la barbe du gouvernement. Donc dans les quartiers, je peux vous dire que beaucoup se disent « mais quelle bande de nuls !»
Ludovine de la Recherche, c'est une affaire qui s'est retournée contre l'État français parce qu'effectivement, on nous rit au nez aujourd'hui.
C'est encore pire que ça. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui ne peut pas faire respecter la loi, un jugement, celui du Conseil d'État. Il est face à un étranger qui agit de manière contraire à nos lois, et le ministre de l'Intérieur est en difficulté face à lui. Notre ministre de l'Intérieur, notre gouvernement ne contrôle plus notre territoire, ne maîtrise plus ses frontières, et en vérité, qu'est-ce que la définition d'un État, ou qu'est-ce que la responsabilité d'un État et de responsable politique? C'est d'avoir la maîtrise de notre territoire, de nos frontières, etc. Alors on l'a abandonné depuis longtemps, et on en voit le résultat. Notre État ne peut plus, ou ceux qui dirigent et représentent notre État, ne peuvent plus assurer le respect de la loi, du droit. Donc cet imam met en difficulté notre ministre.
Alors,
c'est sidérant.
Il y a une autre question aussi, je vais vous faire réagir à ce son-là, parce qu'il est resté un long moment dans l'heure des pros, Gérald Darmanin, ce matin. On a évidemment évoqué avec lui l'attitude de la Belgique, à partir de maintenant, qui a priori n'a pas de raison, elle, d'expulser cet individu. Écoutons Gérald Darmanin à propos de cette fuite vers notre pays voisin.
Et si c'est un ennemi de la République en France, vu ce qu'il dit sur les juifs, sur les femmes, sur les homosexuels, c'est évidemment un ennemi, me semble-t-il, de la Belgique. Donc nous avons passé les informations évidemment aux autorités belges. Monsieur Cuisen d'ailleurs avait des habitudes en Belgique, je veux le dire, je veux le redire. Il s'est pas fui, si je veux dire, naturellement. Il a manifestement un certain nombre d'actions dans une bande frontalière, encore une fois, à quelques centaines de mètres de la Belgique. Évidemment, si les autorités belges ont à connaître de M. Cuisen, nous aurons à travailler, évidemment, à son expulsion.
Jean Garrigue, là, on touche un peu aux limites du système, non?
Oui, enfin, j'ai quand même une interprétation un peu moins cataclysmique que mes deux camarades.
On s'en doutait un peu.
Ben oui, mais on se doutait aussi que leur interprétation serait un peu cataclysmique. Ça peut se retourner aussi. Ben,
Sur le fiasco et l'aspect camouflé, vous êtes d'accord quand même? Vous partagez ce sentiment? Pas tant que ça.
Je ne sais pas si c'est Gérald Darmanin qui a pris un camouflet. Moi, je pense que ceux qui ont pris un camouflet, c'est le tribunal administratif. D'abord... qui s'était opposé à l'expulsion de cet imam. Mais si, c'est quand même la réalité. C'est le tribunal administratif. Et c'est tous ceux qui avaient soutenu la décision du tribunal administratif, c'est-à-dire la France insoumise et toute une partie d'une certaine gauche. On a suffisamment reproché à Gérald Darmanin d'intervenir dans le processus judiciaire pour le reconnaître d'avoir quand même aujourd'hui essayé de faire tout ce qu'il fallait et d'avoir respecté l'état de droit. Alors, si on remet en question l'état de droit... Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, on peut le faire. Non, mais on peut. Je pense que personne ici ne veut remettre en question l'état de droit, mais le fonctionnement de cet état de droit. Là, je suis d'accord. C'est un camouflet pour le fonctionnement de l'état de droit.
Est-ce que c'est pas un camouflet pour la France, pour notre pays en tant que tel, surtout?
C'est un camouflet.
Si on va au-delà des personnalités,
c'est un camouflet en vérité pour notre pays. Voilà. Gérald Darmanin est en difficulté. Il est ministre de l'Intérieur. Il est membre du gouvernement. La France est en difficulté, et c'est un symptôme des dysfonctionnements que j'évoquais tout à l'heure et d'un droit. Alors, ça ne veut pas dire remettre en cause le droit, mais ça veut dire que ce droit, de l'immigration, ce droit administratif, tout ce millefeuille. Que nous avons ajouté de mesures successives qui sont exploitées à fond, tout cela doit être revu et le droit doit être urgemment modifié. Nous en constatons les conséquences quotidiennement dans des affaires qui sont toujours plus graves.
Mais parce que le problème, si vous voulez, c'est que depuis des années, on croit que le droit pour un étranger de s'installer en France est un droit subjectif qu'on ne saurait contester ou abolir qu'à l'issue d'une procédure juridique extrêmement longue permise par l'État de droit. C'est là où on se rend compte que l'État de droit, c'est devenu l'ennemi à la fois de l'État et du droit. Parce que si un État de droit, il est là d'abord pour le droit des Français. Il n'est pas là pour les droits mondiaux ou les droits des citoyens du monde. Donc il est là pour protéger d'abord la France.
Par soi-disant pseudo-humanisme à la française?
Ben oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que nous avons une idéologie depuis une quarantaine d'années qui considère que la France n'est pas une nation, puisque c'est une idéologie antinationale, que la France, c'est un morceau du globe terrestre sur lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, peut venir s'installer et faire souche. Sa souche à lui, certainement pas la souche nationale qui, elle, est interdite. Donc ça, c'est... Mais si vous voulez, au-delà de ça, pourquoi cet imam? Parce que Gérald Darmanin, j'ai entendu son interview ce matin, il nous dit, mais cet imam n'a jamais été condamné pour ses propos. Mais excusez-moi, c'est une honte de plus dans le dossier. Donc ça veut dire que pendant des années, un type peut prononcer des discours ouvertement antisémites sans que personne saisisse la justice pour le condamner. Ouais. Et enfin, si ce gars est expulsé, je vous signale, j'ai vérifié, il a toujours sa chaîne YouTube sur laquelle il y a 168 000 abonnés, il a toujours son compte Twitter, il a toujours son compte Facebook... Donc, qu'il soit en France ou au Maroc, il pourra continuer à déverser sa haine sur les réseaux. Que font les réseaux sociaux? Pourquoi le gouvernement n'a pas convoqué le patron de Twitter ou le patron de YouTube en lui disant « Mais attendez, fermez-lui le clapet à celui-là ». Je vous signale que beaucoup de patriotes qui ne font que défendre leur pays sur les réseaux sociaux, moi-même, j'en ai fait les frais, juste pour critiquer la politique de l'immigration ou pour critiquer l'islamisation de la France, on m'a banni définitivement de Twitter alors que j'avais un compte de 200 000 abonnés. Allez, Jean, celui-là diffuse l'antisémitisme et la haine, rien.
Merci, je m'excuse, je vous coupe.
Non, je vous en prie.
Je voulais juste dire un truc. Sur Twitter, on me dit vous coupez sans cesse la parole à Jean Messia. Mais en fait, Jean Messia, il fait trop long. C'est pas que je lui coupe la parole, c'est qu'il coupe lui la parole aux autres. Jean Garrigue, pour reprendre ce qu'il dit.
Là-dessus, s'il s'est agi de constater que depuis plusieurs décennies, il y a eu une forme d'indulgence coupable vis-à-vis de l'immigration clandestine, de la manière dont un certain nombre de groupes et d'hommes se sont infiltrés dans ce qui sont les valeurs cardinales de notre pays, de notre nation et de notre République. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je constate malgré tout que précisément cet imam qui jusqu'à présent n'avait pas été condamné, il l'a été aujourd'hui. Donc Gérald Darmanin...
Sur le fond.
Quand même. Oui, mais Gérald Darmanin...
Pas sur le fond, Jean.
Mais je suis d'accord.
Parce qu'il
est compliqué Précisément, par rapport à cet état de droit, non, mais on est d'accord là-dessus. Oui. Par rapport à cet état de droit, il est compliqué aujourd'hui. Je constate malgré tout, juste une petite information, il y a au même moment un imam de Toulouse, l'imam Taïtayat, ou je ne sais plus quel
nom, Taïtayat,
qui vient d'être condamné. Alors, c'est peut-être pas assez, mais bon. Ça veut dire que parfois la justice, elle sait aussi condamner.
Juste, je peux pas refermer ce thème, cette première partie de l'émission, sans évoquer aussi la volte-face du royaume marocain depuis.
Ah oui, ça c'est un problème.
Il faut qu'on commente ça aussi, parce qu'on a l'impression parfois que c'est compliqué de se faire entendre et même respecter en tant que pays.
Oui, alors avant-hier, quand l'information de la décision du Conseil d'État est tombée, nous disions ici sur ce plateau, et attendez, il y a encore beaucoup d'étapes, et y compris l'accord du Maroc pour recevoir l'imam. Et à ce moment-là, le Maroc avait donné son accord pour qu'il revienne dans son pays, ce qui devrait être, ce qui d'ailleurs en droit international est un droit pour toute personne, passons. Mais depuis, le Maroc a retiré cette autorisation. Et je voulais ajouter deux autres choses. De toute façon, mettons, il aurait été expulsé, ça aurait été appliqué. Il peut revenir, parce qu'être expulsé n'interdit pas de revenir, premièrement. Deuxièmement, il a encore beaucoup d'étapes successives dans la procédure. Il a encore plein de possibilités d'échapper finalement à la confirmation de l'expulsion.
Et je crois qu'il n'avait plus de recours en l'espèce.
Il n'y a plus de recours sur le référé liberté.
Mais sur le fond,
c'est sur la forme. Par contre, il y a quand même
une interdiction de territoire.
Mais c'est toujours instruit sur le fond. C'est-à-dire que demain, un tribunal administratif peut très bien dire « Ah ben non, sur le fond, la décision de référer liberté... »
Ça n'aurait jamais été réglé.
Voilà. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, en fait.
Il peut encore prendre toutes les étapes. Et puis, il y a différents domaines du droit qui sont concernés, droit de l'immigration, droit administratif, etc. Et il peut encore aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je voulais souligner un autre point également. Finalement, les politiques ne sont pas en capacité, même si éventuellement, enfin, ils font preuve d'un peu de volonté, comme ça avait l'air d'être le cas de Gérald Darmanin sur cette affaire et quelques autres, il n'en a pas la possibilité, il n'en a pas les moyens. Et c'est même pas les juges, c'est le droit. Alors là, construit par nos parlementaires, qui a mis en place...
Donc on touche aux limites du système.
Vous avez parfaitement raison, Madame Denac, c'est que...
C'est le chien qui se mord la queue.
Non, mais c'est pire, c'est que notre gouvernement, à nous, nos responsables, ils n'ont pas honte de voir que le Maroc est en capacité de refuser l'un de ses citoyens. On n'est pas en train de parler d'un étranger.
Ce qui est en vérité illégal.
Et le Maroc est en droit de refuser un de ses citoyens quand nous-mêmes, on nous explique, quand ce même gouvernement nous explique... qu'on est incapable de refuser toute la misère, toute la délinquance et toute la criminalité du monde. Mais on vit où ?
Dernier mot pour Jean-Garic, très court.
Je ne peux pas être en désaccord avec vous là-dessus. C'est très étonnant que le Maroc ait retiré le laissez-passer. J'ai cru lire que ça correspondait à des données de politique intérieure au Maroc, etc.
Il avait été décrété pour 60 jours, à l'origine. Et là,
ça paraît aberrant.
Ce qui va avec le référé, en fait, ça s'explique juridiquement. Pardon.
Oui, non, je vous en prie, mais ça renvoie à la dimension internationale du problème. À nos relations avec un certain nombre de pays.
Les droits de l'homme font.
Notamment du Maghreb. Et au fait que, éventuellement, le Maroc est un pays qui est plutôt un partenaire par rapport à des pays avec lesquels c'est plus tendu. Enfin bref, c'est assez compliqué.
Donc on le ménagerait trop au nom de ce partenariat
Oui, je pense que là il faut même taper un peu
de pression. Et en fait, les mêmes auraient des recours parce que les droits de l'homme font que le citoyen d'un pays a le droit de revenir dans son pays, quoi qu'il arrive. Et la question s'est beaucoup posée au moment du Covid et des déplacements vers l'extérieur. Donc, aussi, juridiquement, il y a encore plein de contradictions.
Allez, on va devoir s'interrompre, on a un petit peu débordé, mais je sais que ce thème vous passionnait. On revient tout à l'heure pour parler éducation et rentrée scolaire. Était-elle parfaite? Les profs étaient-ils tous à leur poste? On s'interroge ensemble là tout de suite. Ravi d'être avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. On va évidemment revenir au débat. On a beaucoup de thèmes à vous soumettre, à soumettre à votre appréciation et à l'analyse de mes invités. Avant cela, le journal a commencé par les experts de l'AIEA qui sont bel et bien arrivés en début d'après-midi dans la centrale nucléaire de Zaporijjia. Mais selon l'opérateur ukrainien, l'un des réacteurs a dû être arrêté en raison d'un bombardement russe. Au même moment où presque, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'est exprimé. Il assure que la Russie maintiendra la sécurité de la mission de l'AIEA. Et puis, c'est la rentrée scolaire. 12 millions d'élèves ont donc repris le chemin de l'école ce matin. Illustration de cette rentrée, ça se passe à Mont-Blanc, un petit village de 3000 habitants situé dans l'Hérault. 262 élèves en primaire, c'est quand même déjà une belle école. Eh bien, figurez-vous que sur place, les fournitures scolaires sont gratuites. Ça mérite quand même d'être souligné. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas.
Un bisou, quoi de mieux pour une rentrée? Ces élèves font leur premier pas en primaire. En tout, ils sont 172.
Lison Cardelli.
Pour le premier jour, papa, maman restent dans la cour pour l'inévitable appel.
Très très bien, que ce soit en primaire ou en maternelle. Les deux ont été ravis.
CE2, il a l'habitude, hein, donc oui, ça se très serein, pas de problème. C'est une bonne école, donc pas de problème.
Là, ils rentrent au CP et en plus, ils changent d'école. Donc on appréhendait plus qu'eux, mais ça va, ça se passe bien.
Des parents qui n'achètent pas de fournitures scolaires, elles sont offertes par la mairie.
Pour le coup, vu qu'on n'a jamais participé, on ne connaît pas le budget que ça peut représenter. Mais effectivement, ça doit être un sacré budget.
Tout le monde ne touche pas les primes, donc ça aide, oui. C'est bien vu.
Nous sommes une famille nombreuse, donc c'est vrai que de ne pas avoir acheté toutes les fournitures, c'est quand même... C'est des économies.
Une économie non négligeable, mais aussi une égalité de traitement pour l'ensemble des élèves.
Au moins sur ce plan-là, le fait d'avoir les fournitures gratuites et fournies évite des comparaisons possibles.
Dès la récréation, les légères angoisses et les petites tristesses ont disparu. C'est parti pour une année de connaissances et de plaisir.
À compter d'aujourd'hui, le stationnement des deux roues à moteur thermique devient payant à Paris. Ça veut dire les scooters et les motos à Paris. La mairie indique que c'est une mesure d'équité vis-à-vis des automobilistes qui paient, eux, déjà le stationnement journalier. Il vous en coûtera 3 euros de l'heure pour les motos dans le centre de Paris et 2 euros dans les arrondissements dits extérieurs. Mais cette nouveauté, évidemment, divise les motards. Nous sommes allés à leur rencontre, écoutez.
J'ai téléchargé une application pour payer mon stationnement que je viens de faire à l'instant. L'objectif étant de dégager tout véhicule de Paris. Voilà, faut que tout le monde se plie à ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, on n'a pas le choix.
Ça change tout parce que déjà, on ne l'a pas vu venir. Ça s'est fait assez rapidement, d'autant plus que les services pour avoir les cartes de résident ne marchent pas du tout. Moi, je ne l'ai pas aujourd'hui, donc j'ai rien du tout. Donc je ne vais pas pouvoir payer le prix qu'ils demandent.
Ça va être de plus en plus cher. Donc moi, j'avais acheté un scooter pour me déplacer rapidement sur Paris. Maintenant, avec le stationnement payant, ça va changer mon point de vue. Je vais peut-être venir en voiture, ce qui sait.
Et puis, une expérimentation, ça se passe dans le département de l'Essonne. L'Essonne qui veut expérimenter le RSA sous conditions. S'il est sélectionné, il fera partie des 10 départements test pour ce dispositif. C'est une promesse d'Emmanuel Macron, une mesure qui conditionne le revenu de solidarité active de 15 à 20 heures d'activité ou de formation par semaine. Voyons ce qu'on en pense sur place à travers ce reportage d'Augustin Donadieu avec Florent Ferraud.
La mesure apparaissait au chapitre « Droits et devoirs » du candidat Macron en 2022. Conditionner le RSA à une activité effective qui permet l'insertion. Concrètement, travailler entre 15 et 20 heures par semaine pour percevoir son allocation. Les habitants de Massy dans l'Essonne y sont plutôt favorables.
Le RMI, on avait oublié le I, ce que ça voulait dire. Je pense qu'effectivement, ça permettrait peut-être à certains de retrouver un rythme de vie.
Je peux vous garantir que je ne gagne même pas 600 au moment où des gens qui sont... Chez eux, bah, ils ne travaillent pas. Et à la fin du mois, 560.
Il faut travailler avant que tu touches les RSA. Le travail, c'est mieux, quoi.
À la manœuvre, le président du conseil départemental qui souhaiterait expérimenter la mesure dans son département. Mais entre volontariat ou obligation, la décision n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi.
Moi, je ne me satisfais pas d'avoir d'un côté plusieurs centaines, voire milliers d'emplois, de serveurs dans les restaurants, d'aides-soignants dans les EHPAD, et puis d'un autre côté d'avoir 31 500 bénéficiaires du RSA. Vous savez, il faut qu'on aide ces personnes qui sont privées d'emploi et qu'on donne ce coup de pouce en leur mettant le pied à l'étrier, qu'on donne confiance aussi aux entreprises qui, des fois, sont un peu réticentes en disant bah, 15-20 heures par semaine, c'est peut-être moins engageant qu'un temps plein et tout simplement que ça matche.
Une dizaine d'autres départements devraient également expérimenter cette mesure avant son éventuelle généralisation en 2024.
Voilà pour l'essentiel de l'info. Retour au débat en compagnie de Jean Messia, Jean Garrigue et Ludovine de la Rochère en ce jeudi. Nous sommes déjà jeudi, oui, jeudi 1er septembre.
1er septembre.
On va revenir momentanément, avant de revenir à la rentrée scolaire, puisque c'est ça qu'on évoquait à travers cette date, à l'interview de Gérald Darmanin sur le plateau de Pascal Praud ce matin. Il a aussi été question, vous le savez, de Jean-Luc Mélenchon et ses propos plus que controversés sur la police. Je vous propose de l'écouter à propos du personnage. Retour sur l'affaire des sirènes aussi.
Je ne sais même pas s'il faut répondre à ce genre de choses de M. Mélenchon. Là, il en veut aux sirènes. Bon, s'il y a des sirènes, c'est parce qu'il y a... D'abord, les sirènes, ce n'est pas que la police. Hein. Ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers qui secourent. Enfin, je l'informe, M. Mélenchon. J'imagine qu'il le sait. Ou alors, il est vraiment anti-police au point qu'il regarde par la fenêtre pour savoir si c'est bien une voiture de police qui passe. Mais je l'encourage à dormir la nuit, alors, dans ces cas-là. Mais surtout, je pense que c'est vraiment le fil, la métaphore de la haine anti-police qu'a une partie de la classe dirigeante de LFI. Parce que les propos de M. Mélenchon les plus abjects, ce n'est pas ceux-là. Prêterait à rire, ce n'était pas ridicule. C'est le fait que la police tue. Hein. C'est vraiment, je crois, profondément une blessure qu'ont chaque policier ou gendarme de France.
Il a raison. C'est le nœud du problème, c'est ça, c'est de catégoriser la police comme institution et comme une institution qui tuerait, selon Jean-Luc Mélenchon.
Oui, oui, sans aucune distinction, sans aucun discernement. Lui qui passe sa vie à ferrailler contre les amalgames les plus douteux et les plus inexistants, là, en l'occurrence... Il s'octroie la permission d'amalgamer toute la police, tous les policiers, tous les gendarmes. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ce qui est fascinant, c'est que à supposer qu'effectivement toutes les sirènes qu'il entend, M. Mélenchon, ce soit les sirènes de la police. Mais la police, elle met la sirène quand, en fait ? C'est quand il y a des actes de délinquance, de criminalité, et que la police va au secours des victimes. Donc, en fait, en creux... Jean-Luc Mélenchon, il y a eu d'ailleurs un grand éclair dans le ciel, il a découvert qu'à Paris, toutes les 10 minutes, il y a un acte de criminalité ou de délinquance. Bravo, M. Mélenchon.
C'est triste de se fendre d'un tweet agacé comme ouais. Ça, alors que ça dénote effectivement une réalité de terrain.
Mais comme c'était par Gérald Darmanin, c'est tellement dans le droit fil de tout ce qu'est la propagande, en fait, puisqu'il s'agit d'une déformation du réel de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, sans doute parce qu'il a entendu les sirènes de la présidentielle et que ça s'est pas fait pour lui, qu'il s'est échoué sur les écueils de l'élection. Non, mais cette vision systémique qu'il impose et qu'il propose à ses électeurs, et c'est là que c'est pervers, qui est reçu par une partie de nos jeunes. On s'apercevrait, les sondages le montrent, qu'une partie de notre jeunesse, les 18-24 ans, cette idée que la police est violente, qu'elle tue, qu'elle est systémiquement violente ou systémiquement raciste, c'est quelque chose qui est, évidemment, pour nous, totalement contraire à la réalité. Tout le monde le sait que c'est contraire à la réalité. Que par exemple, je crois que les armes ne sont sorties pour un refus d'obtempérer que dans 0,5% des cas. C'est-à-dire c'est infime. Et c'est pour se protéger et pour protéger les citoyens. Mais cette idée-là, elle s'infiltre dans l'esprit, et de plus en plus dans l'esprit des jeunes Français. Dans le monde étudiant, que je connais bien, je suis universitaire, je pense que beaucoup sont un peu sur cette idée-là, et ça fait beaucoup de mal.
Les sondages montrent quand même un soutien majoritaire des Français à leur police et à leur gendarmerie.
Mais une certaine catégorie de population.
Oui, pas assez majoritaire chez les jeunes.
La population racaillisée, oui, très certainement.
Ou dans les quartiers.
Ludovine de la Rochère, et en plus il se permet de faire des bons mots sur Twitter. À chacune de ses sorties, il y a une dimension, une visée électoraliste de sa part.
Oui, je pense qu'on ne peut pas dire... il a des propos qui expriment une haine des flics qui est très grave, mais en vérité, on n'est pas dans l'affect, on est au-delà. Il fait de la politique, effectivement, il est d'extrême-gauche. Pour lui, la police, ça, on l'assimile à l'autorité. On l'assimile aux bourgeois, on l'assimile aux riches qu'il faut protéger. Et les pauvres, eux, sont victimes de la police. Alors, en l'occurrence, les pauvres, qui pour lui sont souvent les immigrés en particulier. Et donc, il vise un certain électorat. Il est vraiment dans la structure de pensée de l'extrême-gauche. Et puis, avec des visées électoralistes, il flatte un certain électorat qui est très antiflic depuis longtemps. Et ce qui est épouvantable, c'est qu'en fait, il légitime du coup... les agressions, les attaques, les guet-apens et tous les actes qui sont commis quotidiennement contre les forces de l'ordre.
C'est-à-dire qu'il ne les dénonce pas souvent, en fait. C'est surtout ça aussi.
Il les légitime. En fait, il les justifie.
Il a toujours
En ne les dénonçant pas, de facto, il les légitime.
Mais même en accusant les flics d'être même les agresseurs, alors que c'est tout l'inverse, malgré tout. Enfin, il y a toujours des pourris partout, évidemment. Mais enfin, le propre de la police, c'est le propre des délinquants, d'être des criminels, d'être ceux qui attaquent et qui potentiellement tuent. C'est l'inverse.
Si vous ajoutez à ça ce rapport qui est sorti il y a quelque temps de la Sûreté Générale, ça a un autre nom aujourd'hui, qui montrait qu'un certain nombre de relais islamistes avaient contribué à la campagne des LFI dans les quartiers, justement, auprès du public musulman, auprès des électeurs musulmans, ben là, vous voyez un peu se dessiner un tableau du personnage.
Oui, on en a parlé de l'action politique.
Et c'est là que vous voyez à quel point c'est très politique, tout ça.
Et le public auquel il est très favorable, il est favorable à la créolisation, selon ses propres termes, de la société. Et donc, il va dans le sens. Et évidemment, plus on poursuit dans ce sens-là, plus il aura de pourcentage de voix et plus il s'approchera du pouvoir, ce qui est bien son objectif.
L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est un fossoyeur de la République qui entend justement, en la créolisant, s'en servir comme d'un bélier pour rabattre la France. Voilà le projet de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'en fait, il est contre la police, parce qu'il sait très bien que dans plusieurs zones en France, la police, ce sont les derniers représentants de la France qui rentrent dans ces quartiers, qui ne sont plus des territoires français. Et donc effectivement, il encourage ces irrédentismes identitaire contre l'identité nationale.
Alors, vous parliez d'islamisation tout à l'heure, Jean Garrigue, et nous, on vous a parlé, vous en souvenez peut-être, de ce livre choc en guise de témoignage sur le métier d'enseignant en région parisienne, un ouvrage qui s'intitule « Ces petits renoncements qui tuent », des profs donc, qui luttent au quotidien pour promouvoir la laïcité en son sein, au sein de l'éducation nationale, l'avancée, la progression donc, de ces idées islamistes chez les plus jeunes. Le co-auteur de ce livre, il a voulu témoigner ce matin sur l'antenne de nos confrères d'Europe 1, car vous le savez, il a reçu des menaces et il a voulu expliquer sa démarche, mais sous couvert d'anonymat, je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il nous a confié.
J'aspire à une certaine méconnaissance publique, à une certaine tranquillité. Je ne voulais pas me sentir en porte-à-faux par rapport à mon institution et puis par rapport à ma hiérarchie, voilà, je ne voulais pas qu'on voit ça comme un acte déloyal et je n'ai pas envie de devenir une cible de qui que ce soit et d'être récupéré par qui que ce soit, donc j'ai préféré l'anonymat. Je peux concevoir qu'ensuite on peut voir derrière tout ça quelque chose de l'ordre de sensationnaliste, mais ce n'est pas le cas.
Jean Garrigue, heureusement qu'il y a des gens comme lui pour le dire ce qui se passe réellement.
Ah, complètement. Et ce qui est tragique, c'est qu'il soit obligé justement de recourir à l'anonymat pour simplement porter témoignage de quelque chose qui touche des centaines de milliers d'enseignants que tous les enseignants.
Je crois que c'était minoritaire.
J'ai jamais dit ça, moi.
Les gens disent que c'est une petite minorité.
Ah non,
l'islamisme, c'est une petite minorité contre une immense majorité qui non seulement n'est pas d'accord, mais qui lutte contre ces fanatismes. Donc je comprends plus.
Ce que
là.
Je veux dire, c'est que vous avez des centaines de milliers d'enseignants, en tout cas des milliers d'enseignants, qui sont confrontés chaque jour à ces manifestations plus ou moins diffuses de ce que Gilles Kepel appelle l'islamisme d'atmosphère. C'est-à-dire,
le djihadisme d'atmosphère,
oui. Lui, il parle d'islamisme d'atmosphère, mais peu importe. Qui montre à quel point vous avez des jeunes qui, de plus en plus, vont refuser qu'on parle de l'islam d'une telle manière, qui vont vous dire que les femmes ne sont pas l'égale de l'homme, qui vont contester des choses qui sont le cœur même de nos valeurs à nous, de nos valeurs républicaines, nos valeurs nationales aussi, puisque les deux notions sont liées. Donc c'est ça qui est terrible. Il faut le reconnaître, il y a eu une prise de conscience, particulièrement dans ce quinquennat, avec des référents laïcité, etc. Je crois que ce qui est arrivé à Samuel Paty a quand même marqué les esprits, mais on est là en présence d'une vague qui est très dangereuse.
Autre extrait, on voit aussi qu'il y a des profs qui parfois aussi se radicalisent. C'est un phénomène qu'il ne faut pas mettre sous le tapis non plus. Ça existe, disait-il, même si c'est à la marge, et peut-être que c'est dû aussi un déficit de formation. Écoutons.
certainement aussi le fait qu'il y a un déficit de formation des collègues. Et donc, et je parlais tout à l'heure de prise de conscience, hein, d'électrochoc. Quand même, il faut quand même rappeler que M. Blanquer, et je pense que le ministre actuel, M. Ndiaye, sont dans la continuité, a mis en place un plan de formation qui doit se déployer sur tout le territoire, de formation de toute la communauté éducative sur la laïcité et les valeurs de la République.
On aimerait savoir ce qu'il y a dans ce plan de formation, non ?
On aimerait bien savoir, mais de fait, il parle de la laïcité, et à mon sens, la question, ce n'est pas l'islamisme. En fait, on n'ose pas dire les choses. La question, c'est l'islamisation qui fait que les élèves musulmans contestent ce qu'il y a au menu de la cantine, contestent les conditions des cours de sport où il faudrait séparer les filles et les garçons, contestent pour la piscine où il faudrait avoir des tenues comme si et pas comme ça, contestent les cours d'histoire, aussi bien sur l'histoire de France que sur l'histoire d'anciennes colonies françaises, par exemple, typiquement, mais on peut, et l'histoire de l'islam, par exemple, contestent en littérature certains écrits, certains ouvrages qu'ils doivent étudier qui ne leur conviennent pas religieusement, contestent en portant le voile, en portant autrement une tenue religieuse, y compris pour les garçons. Donc en fait, la question, ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islamisation. Il y a quand même une question qui est liée à l'évidence à l'immigration, mais n'oublions pas que l'islam est partagé. Enfin, nous avons de plus en plus de jeunes français, nés en France ou dont les parents, enfin, ou arrivés plus récemment, peu importe, qui sont à l'école en France et qui ne partagent pas nos valeurs parce qu'ils ne sont pas du tout de la même origine culturelle. Ouais. Et c'est très difficile pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour eux, mais c'est toute la question qui est posée par ce sujet de l'immigration. Et pense-t-on qu'on peut continuer de manière indéfinie ? Non, parce que ce n'est pas lié à la radicalisation, d'accord, c'est lié à la religion.
Sauf que... ils pourraient aussi exercer leur libre arbitre et de leur propre chef dire « moi, j'ai envie de me conformer à ça, j'ai envie de considérer que l'école, c'est un sanctuaire ». Il y a aussi, et c'est peut-être une notion qu'on n'aborde pas assez, au-delà de ce qu'on entend dans les familles, il y a aussi le poids social et l'envie de se conformer au groupe.
À la communauté.
Alors, l'effet de groupe qui joue beaucoup.
Alors, il y a ça, mais effectivement, moi, que ce prof ait choisi
c'est
l'anonymat...
C'est pas pour les dédouaner, hein, mais c'est un autre phénomène, je veux dire.
Oui, mais le problème, c'est que... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce professeur a choisi l'anonymat. C'est un problème, puisque quand on lui pose la question de savoir pourquoi vous ne l'écrivez pas sous votre identité, il vous dit qu'il ne veut pas mettre l'institution éducative en porte-à-faux. Oui. Mais l'institution éducative, depuis Samuel Paty, nous dit que le problème a été pris à bras-le-corps et que le pas de vague a été abandonné et que les professeurs sont soutenus partout où ils doivent l'être.
C'est faux.
La preuve que non. Donc on nous a encore une fois enfumé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous avons en France... un iceberg de haine anti-française et anti-nationale dont il y a un pic qui est islamiste, mais qui ne saurait cacher le reste de la haine au quotidien contre notre pays. Donc si vous voulez, le problème... Alors, l'islam est-il compatible avec la République ? Parce qu'in fine, on tombe sur cette question-là. Moi, je pense que certaines pratiques de l'islam, individuellement, sont compatibles avec la République, mais toutes les pratiques ne le sont pas. Or, le problème, c'est que l'islam mondialement est traversé par des courants intégristes puissants, pas seulement en France d'ailleurs, hein, dans tous les pays arabo-musulmans et dans tous les pays musulmans tout court, et la France n'y fait pas exception. Est-ce que notre réponse face à cette montée de l'islamisation de notre société est adéquate ? Je ne le pense pas. Quand on voit le bazar que c'est pour expulser un imam, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de lutter contre l'islamisation.
La première partie, je crois, de votre réponse.
Là-dessus, je peux vous rejoindre, ça c'est pas un problème. Quand vous stigmatisez à raison l'insuffisance réponse de l'institution éducative, vous sous-estimez un problème et qui est peut-être encore plus grave. C'est-à-dire que c'est pas tant aujourd'hui un problème de réponse de l'institution, des recteurs, de l'académie, etc. Le vrai problème, il est dans la tête des enseignants. Parce qu'il se trouve que, de par leur forme, exactement, il y a une autocensure.
C'est ce qu'il décrit, en fait.
Et il y a aussi une imprégnation d'une forme d'idéologie, de la repentance coloniale notamment.
Oui, c'est vrai.
Universitaire, je peux vous dire que l'ai vécu de manière extrêmement, extrêmement forte. Il y a une forme d'idéologie, d'empathie vis-à-vis notamment des populations, des citoyens musulmans de France, qui fait que c'est
très compliqué, même psychologiquement, pour un enseignant, de dire
« Non, mais
bah,
là,
même,
ça va, ça, non, mais maintenant, ça va au-delà. Quand on lit ce livre et qu'on voit le témoignage, oui, même à visage caché,
souvenez-vous du collègue, souvenez-vous des collègues de Samuel Paty qui lui avait dit au départ « Eh, dis donc, là, t'en penses pas de ça, hein, mollo. Hein. »
D'accord, mais maintenant, il y a aussi la peur. Il n'y a pas juste... on ne s'autocensure pas seulement par empathie. On s'autocensure parce qu'on a peur de se...
Exactement.
Ils viennent nous trouver à l'assemblée.
Il y a beaucoup de choses. Il y a l'idéologie woke et donc les peuples qui ont été anciennement colonisés, tous ceux qui en descendent et qui aujourd'hui se disent français, mais en même temps se sentent victimes de la colonisation. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils se situent, les pauvres, et je les plains d'ailleurs à certains égards. Je ne sais pas comment ils vivent la situation, visiblement difficilement, puisque beaucoup sont tournés en situation d'échec scolaire, social, etc. Enfin bref. Donc, le wokisme qui converge à certains égards avec l'islamisation que nous évoquions. Et bien sûr, il y a un sentiment de peur. Et l'institution, elle ne sait plus comment faire. Moi, je vois, j'ai enseigné en Ile-de-France. J'ai été enseignante pour l'éducation nationale. Je suis professeure certifiée d'histoire-géographie. J'ai gardé des contacts avec d'anciens collègues. Je peux vous dire qu'il y a eu des affaires récemment. Ils ne se sont pas du tout sentis protégés, soutenus, entourés. Ils n'ont eu aucune sécurité particulière, au point, je pense à l'un d'entre eux en particulier, que cette année, il a changé d'établissement tellement il avait peur, il se sentait en danger et seul. Et de fait, l'institution, elle est confrontée à une hydre qui, d'une certaine manière, a des difficultés, je veux dire, qu'on trouve dans beaucoup d'écoles.
Et comment on déplace le prof plutôt que les élèves,
en fait, l'institution, elle est gérée par des Sandrine Rousseau, hein, qui était prof aussi. Donc, évidemment, c'est pas avec ce genre de personnes et ce genre d'idéologie qu'on va défendre ce qu'on est.
On avance un petit peu sur la rentrée, parce malheureusement, le temps n'est pas élastique. On va voir si ça s'est bien passé pour les 12 millions d'élèves qui rejoignaient leur classe ce matin. Quid des profs aussi qui manquaient à l'appel il y a encore seulement quelques jours, sauf que Pape Ndiaye, entre-temps, nous a dit tout va bien se passer. Il a voulu nous rassurer. En tout cas, Elisabeth Borne, qui était elle aussi sur le terrain ce matin, n'était pas totalement insatisfaite du résultat. Écoutez la Première ministre.
Évidemment, voulu qu'il puisse y avoir un enseignant devant chaque élève pour cette rentrée, et c'est forcément une angoisse pour les parents de se poser la question de savoir si ça sera le cas. Donc ça sera, je ne vais pas vous dire qu'il ne peut pas y avoir un cas, je redis, hein, c'est 12 millions d'élèves, 860 000 professeurs, donc qu'il puisse y avoir des ajustements dans les jours qui viennent, sans doute, mais en tout cas, je pense que cette rentrée, elle va bien se passer. Ça ne me satisfait pas qu'il y ait des problèmes d'attractivité, de recrutement dans certaines académies, dans certaines disciplines. Et évidemment, c'est pour ça que, dans le cadre de ce qui avait été annoncé par le président de la République, on veut redonner de l'attractivité au métier d'enseignant.
Mal en même temps, n'allait pas dire le contraire et se dédire. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce maître mot d'attractivité, parce que ça englobe quand même beaucoup de choses. L'attractivité, ça veut dire pour les profs avoir envie, ça veut dire se sentir soutenu par l'académie, ça veut dire pouvoir défendre les valeurs,
se sentir libre.
Voilà, la sécurité. Et puis l'argent, on n'en parle peut-être pas assez, mais l'argent aussi.
Ils sont très, très mal rémunérés, les enseignants sont très mal rémunérés pendant de longues années durant leur carrière. La raison, et il faut le rappeler, c'est que ce sont les syndicats qui, depuis des années, les syndicats enseignants ont mis la pression pour que les hausses de rémunération réelles soient en toute fin de carrière, puisque vous savez que ce sont les dernières années de la carrière qui impactent les retraites. Et donc les syndicats ont aussi une responsabilité dans le fait que les jeunes enseignants sont très, très mal rémunérés. Par ailleurs, l'éducation nationale est une énorme machine. On avait parlé du mammouth, une énorme usine à gaz. Et donc, quand vous êtes reçu au concours et que vous allez avoir un poste après votre année de stage, un poste pour la première fois, vous rentrez des tas de choses dans un ordinateur, ça tourne et vous êtes projeté là. Là, c'est inhumain. Je vous assure que c'est la
loterie. Avec des situations absurdes. Vous êtes un Parisien qui va être envoyé, en Bourgogne. Bourgogne et un Bourguignon qui va être envoyé à Paris. Quand Claude Alec parlait du mammouth, je peux vous dire qu'il disait vrai.
Oui, il a des cornes depuis le mammouth.
Ça lui a coûté beaucoup. Non, mais il y a un problème de suradministration et de mauvaise administration.
Et de peu de pouvoir à cause des syndicats aussi.
Ça, c'est un problème aussi, le problème des syndicats. Mais vous avez raison qu'il y a aussi un problème de rétribution, parce qu'on est, très en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE.
La machine France va très très mal aujourd'hui.
Si vous voulez, l'éducation nationale va très mal, c'est évident. Elle va très mal d'abord pour une question de moyens, mais pas que. C'est aussi une question idéologique. C'est-à-dire, vous savez, Solzhenitsyn disait, si vous voulez détruire un peuple, il faut détruire ses racines. La première des racines s'acquiert à l'école. C'est là où on découvre véritablement, avec évidemment la cellule familiale, c'est là où on découvre d'où l'on vient, qui on est. C'est là où on apprend à parler notre langue, la langue de ses ancêtres, etc. etc. Or, aujourd'hui, cet héritage qui fait de l'école le lieu où on enseigne à être le maillon de cette longue chaîne historique nationale a été brisée. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ? Quand j'entends que les professeurs sont recrutés par des speed dating. Mais attendez, c'est l'ubérisation de du métier d'enseignant. Juste, c'est quoi on va, ça va devenir des chauffeurs Uber ou quoi?
Juste un chiffre. Pap Ndiaye, il n'est pas franchement l'homme de la situation pour beaucoup de sondés, puisque 62% des Français ne le jugent pas à la hauteur de la tâche. Est-ce que ce ratio vous surprend ou pas plus que ça?
Alors, je vais vous dire, les Français savent que le niveau scolaire s'est effondré. Alors, on appelle le ministère Éducation nationale. Mais la vérité, c'est que sa mission et son cœur de mission, c'est l'instruction. C'est l'enseignement. Et là, on nous demande d'être un peu comme l'idiot qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune, c'est-à-dire qu'on nous parle de problèmes de gestion, alors qu'en vérité, il y a à revoir les programmes scolaires, les manuels scolaires, les méthodes scolaires, la répartition des vacances, etc. Le contenu, et les méthodes, la manière dont on enseigne, les conditions de l'enseignement, là est le sujet si nous voulons remonter le niveau scolaire et revenir à un bon niveau. C'est là le cœur de la mission aujourd'hui et le cœur de l'urgence de Pap Ndiaye. Oui. Mais de quoi a-t-il parlé ces derniers jours? Il a parlé, pardonnez-moi, de l'éducation sexuelle qu'il fallait renforcer. Emmanuel Macron a parlé du harcèlement. Alors le harcèlement, c'est une vraie question. Mais ils n'ont jamais parlé de l'enseignement
en quelques secondes.
Oui, mais en même temps, concrètement, il y a la demi-heure d'éducation physique, il y a les maths qui reviennent en première, etc.
Il y a beaucoup trop de matière, il y a beaucoup trop d'idéologie.
Pour moi, fondamentalement, il y a un statut de l'enseignant et de l'enseignement à réhabiliter dans cette société. Et là, la responsabilité, elle ne repose pas que sur les enseignants ou que sur l'institution pédagogique, elle repose sur la société tout entière, sur les Français. La manière dont moi je le vois, parce que je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants, je vois que la manière dont les parents gèrent leur rapport aux enseignants, leur rapport à l'école, leur rapport à l'apprentissage, et la manière dont ils, comme très, très souvent, traite ça par-dessus la jambe.
On en vient à ce mot
et le refus de l'autorité, etc. Mais tout ça, c'est très important.
Et l'école parce ne peut pas faire si les parents n'ont pas fait. Et c'est d'abord la famille qui importe.
Merci. On s'interrompt à nouveau. On reviendra pour parler d'énergie parce que ça aussi, ça nous concerne au premier chef. En plus de l'avenir de nos enfants, comment va-t-on passer l'hiver? Les remises à la pompe, notamment, ne perdureront pas éternellement. Ça, on l'a bien compris. Donc, on va trouver des palliatifs pour la suite. On s'interroge là-dessus juste après la pause. Avant d'entamer la toute dernière partie de notre émission, place à l'info en compagnie d'Arthur Muriot.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était l'invité de l'Heure des Pros. Ce matin, il est revenu sur l'affaire Hassani Kioussen. Alors que l'imam est en fuite, le Maroc a annoncé la suspension de son laissez-passer consulaire permettant son expulsion. Le ministre s'est dit étonné de cette décision, mais il indique continuer l'échange d'informations avec le pays. Le marché de l'automobile français connaît un rebond au mois d'août de 3,79%, mais les chiffres restent bas par rapport à l'avant-pandémie. Au total, 91 403 voitures particulières ont été immatriculées pour la première fois le mois dernier, une baisse d'environ 29% comparée à 2019. Après la détection de 157 nouveaux cas de Covid, la Chine confine une ville de plus de 20 millions d'habitants. Il s'agit de la métropole de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement chinois prône une stratégie zéro Covid. Les habitants n'ont plus le droit de sortir de chez eux pour une durée indéterminée.
Merci. Arthur, on va parler de l'énergie avec l'info du jour. C'est quand même que le coup de pouce à la pompe va passer de 18 à 30 centimes. C'est déjà ça de gagné, hein, mais ça va durer seulement 2 mois. Et puis, énergie, pourquoi je vous en parle? Parce que ça a fait l'objet d'une longue allocution de la part du chef de l'État ce matin. Il réunissait les ambassadeurs français. C'est la conférence annuelle, c'est un exercice traditionnel en cette période de rentrée. Et voici ce qu'Emmanuel Macron a dit sur ces deux aspects de l'énergie, de l'alimentation également, qui sont devenus encore plus... C'était le cas précédemment, c'est ce qu'on comprend de ce qu'il nous explique, mais encore plus des enjeux de géopolitique aujourd'hui.
Ce qui semblait relever d'un ajustement spontané du monde et de la main invisible du marché, pour n'en citer que deux, l'énergie et l'alimentation, redevient, par la conséquence des crises, un sujet de géopolitique profonde. De fait, il l'était un peu, il l'est maintenant, résolument et de manière assumée. C'est un changement complet de notre grammaire. Mais ce qui veut dire qu'y compris pour nos pays, l'Europe est en train de le vivre dans sa chair. Certains voisins, plus que nous, compte tenu de la force de notre mix énergétique et de notre modèle. Mais ce qui veut dire que ce qui avait force d'évidence recrée des dépendances.
C'est vrai, Jean Garrigue, on pense évidemment à l'eau, on pense au pétrole, ça a toujours fait l'objet de négociations et de pressions de la part des pays producteurs, de l'OPEP. Bon, ça fait un certain temps que ça dure. Mais là, il a raison, c'est maintenant, on touche à des domaines encore plus ciblés qui sont devenus cruciaux, voire même vitaux pour les peuples.
Il y a non seulement le problème des denrées alimentaires, mais il y a aussi celui qui est crucial, celui de l'énergie. Alors, a priori, la France devrait s'en tirer un tout petit peu mieux qu'un certain nombre de ses voisins, notamment l'Allemagne. Mais ça pose là le problème de l'Union européenne et de la manière, moi c'est ça qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur le terrain énergétique, me fait peur, c'est la situation de l'Allemagne, la situation de dépendance de l'Allemagne vis-à-vis notamment du gaz, on le sait, russe, qui n'est plus soviétique.
C'est parce que Mikhail Gorbatchev est mort avant-hier.
Oui, sans doute, et puis parce que Vladimir Poutine a très bien connu aussi l'époque soviétique et qu'il en a gardé un certain nombre de mentalités. Mais en tout cas, moi je pense que là, il y a un vrai problème qui se pose par rapport à l'indépendance de notre politique énergétique vis-à-vis notamment des Allemands.
Jean Messia, cette fois.
Ben écoutez, moi je pense que contrairement à ce qu'on nous raconte, l'élévation des prix, l'inflation à la fois sur les prix de l'énergie, sur l'alimentaire, ce n'est pas du tout le prix de notre liberté, contrairement à ce que nous serine le gouvernement, ni la liberté de la France, ni la liberté de l'Union européenne, et même pas la liberté de l'OTAN. Nous nous sommes engagés en Ukraine pour des raisons morales, ça a eu des conséquences. Il va falloir maintenant...
Géostratégique aussi.
Il va falloir maintenant en sortir, c'est-à-dire que lorsque... J'entends le président Zelensky nous dire que la guerre ne s'arrêtera que lorsque le dernier Russe sera sorti du territoire ukrainien. Moi, j'ai un peu peur, si vous voulez. Parce que autant on peut rentrer en guerre pour des raisons, ou en tout cas être co-belligérant de manière indirecte pour des raisons morales, on ne peut pas ad vitam aeternam soutenir cet effort de guerre. Donc là, on met des pansements pour atténuer, des airbags, pour atténuer la violence du choc systémique que ça aurait été, comme on le voit d'ailleurs en Grande-Bretagne, qui, elle, n'a pas pris de mesures, mais on ne pourra pas le faire pendant des années et des années. Je pense qu'à l'horizon 2024, ça sera le maximum que la France pourra tenir. D'accord. Et tout ça, encore une fois, est financé sur la dette. On distribue la dette parce qu'on ne peut pas augmenter les impôts.
Il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais insister. Il y a un autre extrait qu'on a retenu. Et moi, je trouve que là, en l'espèce, c'est la première fois qu'on entend Emmanuel Macron aller aussi loin dans son constat du monde et du modèle qu'on a en tant que société au pluriel occidentale, occidentales. J'aimerais que vous l'écoutiez là-dessus.
Nous sommes en train de vivre le début d'un moment illibéral. Et la téléologie dans laquelle nous étions plongés depuis 1990, qui était l'extension de nos valeurs, de nos systèmes de droit, de nos systèmes politiques, n'est plus une réalité. La capacité à convaincre ou l'imposer comme un modèle qui est en quelque sorte non contestable et qui serait l'aboutissement de l'humanité, je le dis ici, ne fonctionne plus.
Voilà, le modèle occidental tel qu'on le connaissait est mort. C'est la première fois que moi que je l'entends se livrer à un tel aveu, finalement, aveu d'échec aussi.
Oui, puis il y a une analyse qui est intéressante. Sur le premier sujet, effectivement, il a raison, dans nos sociétés, nous avons cru que l'abondance, la surconsommation, le tout à disposition... était une évidence et que plus jamais nous nous poserions de questions sur ce qu'il y avait dans les magasins ou ce qu'on pouvait avoir à la pompe à essence ou autre. On s'aperçoit qu'en fait, nous restons fragiles, même nous, pays occidentaux. Et si je ne me trompe pas, en fait, il se situe là au niveau international. Ces échanges entre les pays et le contexte actuel fragilisent tout cela et nous dépendons les uns des autres. Donc, il y a une première question. La deuxième... En vérité, la France est l'alliée des États-Unis, de l'Union européenne. Emmanuel Macron dialogue vaguement avec Poutine pour l'apparence, mais il a suivi complètement la politique américaine. Et on voit bien que l'Occident est la seule partie du monde qui s'oppose de cette manière-là à M. Poutine. Et petit à petit, le reste du monde nous exclut, nous rejette. Et il y a à cela tout un ensemble de raisons. Et d'une certaine manière, pour une fois, il le dit, nous avons une vraie difficulté avec nos comportements d'occidentaux, la manière dont nous faisons la morale à la terre entière. Alors, c'est très américain, mais nous n'avons pas cessé de suivre les États-Unis depuis des dizaines d'années. Et là, nous le faisons encore et à nouveau.
Mais c'est pas nouveau.
C'est désolant.
C'est pas nouveau, puisque qu'est-ce qu'il est en train de nous décrire, Emmanuel Macron, là ? Il est en train de nous décrire la fin de l'histoire. C'est-à-dire que Fukuyama disait déjà que, effectivement, l'extension du modèle de la démocratie, des droits de l'homme, etc., allait se propager. Or, il constate, mais ça, le constat avait été fait avant. Il découvre que ce n'est pas vrai.
En fait, il nous décrit la décadence d'un système.
Voilà, et il découvre qu'en fait, l'Occident est devenu un îlot dans le grand océan du monde. Vous vous rendez compte que les Français ne savent peut-être pas, mais Très peu de pays, finalement, soutiennent l'Ukraine contre la Russie. Très peu de pays ont apporté, enfin en tout cas critiquent Poutine, et très peu de pays nous ont apporté le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, etc.
Ce qu'on appelle les BRICS, notamment,
Exactement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron, en s'entêtant dans un modèle qui est vomi par l'écrasante majorité de la planète, il a transformé en fait la France en cerf-volant qui danse dans un ouragan.
Ça vous a surpris comme sortie, Jean Garrigue, ce qu'il a dit ce matin devant les ambassadeurs français? Parce que là, en fait, ce qu'il faut bien dire aussi dans le contexte, c'est que ce sont, bon, eux, ils savent très bien ce qu'il est en train de décrire, parce que ce sont des hommes quand même, voilà, qui est formé pour la plupart au Quai d'Orsay, mais il est en train d'expliquer à nos ambassadeurs qui vont ensuite se rendre dans les autres capitales en quoi, eh bien, on est en situation de déclin et qu'il faut peut-être revoir notre copie.
Et qu'il ne fait que renforcer lui-même par des raisons idéologiques. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes rejetés par de très nombreux pays dans le monde. Notre idéologie woke, etc., insupporte le monde. Jean, pardon.
Faut-il pour autant renoncer à ce qui a fait, je dirais, notre histoire et nos valeurs occidentales? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Et je ne pense pas que le modèle poutinien ou le modèle chinois soit recevable par
Non, mais numériquement, il est plus
reconnaître sur le plan géostratégique que nous sommes désormais, mais ça, tous les historiens, vous savez, vous l'aurez dit, hein, la démocratie, la véritable démocratie telle que nous la connaissons, libérale, parlementaire, c'est quelque chose de très minoritaire à l'échelle du globe. Faut-il pour autant renoncer à ce modèle parce qu'il y a un prix très lourd à payer? C'est une question que je pose. Moi, je pense que oui. Mais c'est effectivement, on peut répondre en disant, mais non, finalement, pactisons avec telle ou telle dictature, pactisons avec tel régime autoritaire.
Juste pour l'air.
Ce que je pense, c'est que vous me demandiez pourquoi Macron à ce moment-là, parce que Macron, à mon sens, dans ce deuxième quinquennat, il a essayé d'avoir une stature un petit peu plus, je dirais, internationale, prendre de la hauteur et de la distance.
Juste, un dernier extrait, je tenais à vous le faire partager, il nous reste très peu de temps. On parlait tout à l'heure de jusqu'où peut-on aller pour soutenir à bout de bras cette crise qui finalement nous coûte terriblement. Vladimir Fedorovski, vous le connaissez tous, c'est un ancien diplomate. Lui, il dit qu'il faut commencer à discuter, la sortie de crise est impératif. Écoutez.
Avec mon expérience, quand je parle avec les grands Américains impliqués, j'ai parlé avec, vous savez, adjoint de McNamara, il a dit, pendant la crise de Cuba, nous avons recherché le mot de compromis, la sortie de la crise. Aujourd'hui, qui parle de ça?
Personne.
Personne. Alors, moi, je dis, faites attention. Les guerres se terminent avec les discussions, pas avec les copains, pas avec les alliés, avec les adversaires. Mon conseil, c'est quand même d'utiliser le mot qu'a formulé Macron. Il y a un discours sur lequel on va revenir à Strasbourg au début du mois de mai. Il a dit pas d'exclusion, pas d'humiliation et désescalade.
On a bien compris le message.
Oui, mais malheureusement, la France, à la fois de François Hollande et je crains que ce soit également le cas d'Emmanuel Macron, ils instituent la règle selon laquelle il ne faut parler qu'à nos amis. Je me rappelle qu'avec la Syrie, par exemple, François Hollande avait interrompu ses relations diplomatiques, ce qui nous avait d'ailleurs... ce qui nous aurait, si on les avait maintenus, permis peut-être d'éviter les attentats de 2015, puisque les Syriens nous informaient sur un certain nombre de djihadistes et d'activités terroristes de leur territoire vers le nôtre. Donc le problème, si vous voulez, c'est que la Russie s'enrichit. C'est-à-dire que pendant qu'ici, en France, on nous parle rationnement, on nous parle sobriété, on nous parle fin de l'abondance, la Russie, elle a engrangé 40% de recettes gazières en plus par rapport à la fin de la guerre. Donc non seulement on ne parle pas à la Russie, mais en plus... Elle profite, nous nous appauvrissons.
Oui, mais on lui parle. C'est là que je suis en désaccord avec vous. Je pense que sur le constat, vous avez raison, le rapport de force leur est favorable. Mais je pense qu'on leur parle. Et Macron a été suffisamment critiqué justement par certaines parties de l'opinion.
Parler n'est pas sortir de la crise. C'est pas la
non, mais d'accord.
Chose. Oui, c'est pas
mais on n'est pas dans une rupture. Je crois qu'il faut aller plus loin, effectivement, rechercher un compromis, évidemment.
Je vais très très vite. On est dans un grand paradoxe. On continue à avoir une attitude ou un sentiment de supériorité en disant nos valeurs sont les bonnes et donc nous devons continuer à les imposer aux autres. Et qui plus est nos valeurs qui ne sont plus du tout celles que vous décriviez de démocratie, etc. Elles sont des côtés très idéologiques et très totalitaires.
Les valeurs des autres.
Très totalitaires. Et en même temps, on est très complexé vis-à-vis de ces pays. Et nous susciter encore une fois ce rejet, le dialogue n'existe pas, en vérité.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était vraiment un plaisir. Et j'ai trouvé que ce débat était quand même assez vif, constructif. On allait au fond des choses. Dans un instant, c'est Laurence Ferrari que vous retrouverez pour Punchline. Et moi, avec grand plaisir, je serai là demain, 15h30. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.